Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Des pays occidentaux qui ont trop longtemps fermé les yeux. Une certaine apathie en Russie, une incapacité de l'Europe depuis plusieurs années à prendre des décisions économiques et politiques radicales face aux provocations de Vladimir Poutine. Sommes-nous collectivement complices, voire responsables de la guerre en Ukraine ? Bonjour Jonathan Little.
Bonjour.
Voilà une question que vous évoquez dans votre dernière publication de l'agression russe, écrit polémique aux éditions Tract de Gallimard, un recueil de vos tribunes paru notamment dans la presse française depuis le début de la guerre en Ukraine en février. Le sous-titre est intrigant parce que vous nous avez donné des reportages, des romans, un écrit polémique. C'est la première fois. Pourquoi avoir choisi cette forme, Jonathan Little ?
Tout simplement parce que le contexte s'y prêtait. Je pensais qu'avec le déclenchement de cette guerre et l'iniquité de l'agression russe contre l'Ukraine, qu'il fallait passer effectivement à un genre que j'ai très peu pratiqué, qui était ce mode-là, celui de la polémique, de la dénonciation, plutôt que uniquement du reportage objectif, comme j'en ai plus l'habitude.
L'un de vos amis vous a fait une confidence il y a quelques années sur Vladimir Poutine en vous disant « c'est un lieutenant-colonel du KGB, c'est-à-dire rien ». Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Expliquez-nous.
C'était juste à l'époque où Poutine venait d'être nommé président d'exercice, avant qu'il soit effectivement élu, en mars 2000, si je me souviens bien. Ce que Sergueï Kovalyov voulait dire là, c'était que Poutine n'a jamais dépassé ce niveau, qui est un niveau finalement extrêmement moyen de lieutenant-colonel. C'est-à-dire qu'il manquait complètement d'envergure et de capacité au sein du KGB pour être promu ne serait-ce que colonel et encore moins général, que ce n'était pas une personne décisionnelle, que c'était un exécutant. Comme il me l'a dit aussi, un lieutenant-colonel du KGB, c'est quelqu'un qui calcule ses coups à un jour, à deux jours. Il n'est même pas capable de calculer à une semaine, encore moins des mois ou des années, comme peuvent le faire ceux qui sont promus généraux. Donc c'était quelqu'un de très peu d'envergure, qui est passé de ce niveau-là assez rapidement à la présidence de la Russie.
Mais alors, est-ce que la suite de l'histoire lui a donné tort ? Est-ce que c'est au contraire la passivité des Occidentaux qui a conféré une telle puissance à Poutine ?
Poutine, évidemment, a grandi dans son rôle. Il a énormément appris, il a énormément évolué, à force de fréquenter tant de présidents occidentaux, de dirigeants occidentaux, il a appris comment les manipuler, comment jouer avec eux. Mais je pense que les faiblesses qui étaient les siennes au départ, qui étaient sa façon de penser tactiquement et jamais réellement stratégiquement dans la durée, est resté avec lui jusqu'à maintenant. Tous les grands coups qu'il a fait en 2014 avec la Crimée, le Donbass, avec la Syrie en 2015 et maintenant avec cette invasion, ce sont des coups tactiques. C'est des coups de joueur de poker qui pense juste qu'il va effrayer l'adversaire et que l'adversaire va se plier, qui est l'analyse constante qu'il fait de nous. Il se trouve qu'il a eu raison jusqu'à maintenant et que on lui a donné raison en se pliant devant lui à chaque fois. Et c'est ça qui l'a encouragé à aller aussi loin qu'il est allé maintenant.
Alors, vous expliquez effectivement que la carrière de Poutine depuis 1999, Jonathan Little, se confond avec la guerre.
Il est venu au pouvoir grâce à une guerre. Ce n'est pas vraiment lui qui l'a lancé. Les manipulations, notamment d'islamistes en Tchétchénie, qui ont donné à la Russie le prétexte pour lancer la Seconde Guerre mondiale, étaient plutôt le fait des gens qui voulaient porter Poutine au pouvoir, qui voulaient le promouvoir comme remplaçant de Boris Yeltsin, qui était vraiment sur la fin. Mais il a joué le jeu avec eux. Il s'est laissé porter ainsi au pouvoir. Il a laissé faire l'armée avec sa nouvelle guerre, la seconde guerre de Tchétchénie, qui était complètement dévastatrice et encore plus meurtrière que la première. Et il a fondé sa carrière là-dessus. On se souvient tous de sa fameuse déclaration, juste avant l'élection présidentielle, qu'il ait rebuté les terroristes jusque dans les chiottes. C'est grâce à cette guerre qu'il a formé cette image macho de dirigeant impitoyable qu'il a essayé de garder jusqu'à aujourd'hui.
Puis la Syrie. Pourquoi, justement, s'est-il lancé dans cette autre guerre, Jonathan Little ?
La Syrie, c'était une opportunité brillante pour lui. En 2013, quand Bachar al-Assad a employé les attaques au gaz contre les opposants dans les banlieues de Damas, Barack Obama a reculé sur sa ligne rouge. Il avait dit que si les Syriens employaient les gaz toxiques, les gaz interdits, les militaires américains interviendraient. Et quand l'occasion s'est présentée, il ne l'a pas fait. La France était prête à le faire, mais les Américains ont reculé. Et Poutine a vu qu'il y avait une opportunité là, que les Occidentaux étaient lâches, étaient faibles, et qu'il y avait une place à prendre. Il y avait une place à prendre à la fois stratégique, au sens géopolitique du mot, c'est-à-dire qu'il pouvait récupérer une nouvelle base aérienne, Khmeimim, il pouvait agrandir sa base maritime à Tartous, il pouvait mettre un pied réellement sur la Méditerranée d'une manière beaucoup plus forte qu'il avait avant. Mais surtout, je pense qu'il y avait aussi des raisons qui étaient intimement liées à la politique interne, c'est-à-dire suite à la révolution ukrainienne de Maïdan en 2014, Poutine voulait à tout prix montrer à sa population ce qui pourrait leur en coûter de se soulever contre leurs dirigeants, qu'ils soient légitimes ou non, et exterminer une partie de la rébellion syrienne, raser des villes en Syrie, c'était finalement un moyen pour lui de faire à très peu de frais pour la Russie une démonstration de force envers sa propre population. C'est-à-dire de leur dire, regardez ce qui arrive si vous essayez de vous révolter contre moi. C'est jusque-là qu'on ira. On sera prêt à tuer tout le monde.
Vous êtes rendu en Syrie, vous avez fait des reportages en Syrie, Jonathan Little. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ?
Ça, c'était avant l'intervention russe. Moi, j'y étais début 2012, au début de la seconde année du conflit, à Homs. C'est pas du tout la même situation que quand les Russes sont intervenus 3 ans plus tard. C'était déjà ultra-violent. Mais d'une autre manière, c'était des snipers du régime qui tuaient des civils dans la rue au hasard, tout le temps. Des bombardements occasionnels, aussi contre des parties civiles de la ville qui étaient tenues par les rebelles. Les rebelles eux-mêmes n'étaient pas vraiment très organisés. Il n'y avait pas encore les islamistes. L'armée syrienne libre, c'était surtout des déserteurs de l'armée régulière qui s'étaient organisés en brigades, mais sans vraiment de commandement centralisé. Donc les choses devenaient déjà ultra-violentes, mais je dirais que la population civile et les activistes croyaient vraiment encore à la possibilité d'une révolution qui renverserait le dictateur et qui amènerait en tout cas un état de droit en Syrie, là où il n'y en avait jamais eu. Évidemment, ils ont dû cruellement déchanter dans les années qui ont suivi.
Et alors, ensuite, l'arrivée des Russes, est-ce que cela augurait déjà parfaitement de ce qui allait suivre par la suite, c'est-à-dire en fait la transformation du régime de Vladimir Poutine en un régime guerrier et en un régime qui devait se lancer pratiquement dans des guerres pour survivre.
Il l'était déjà depuis longtemps. Après la Tchétchénie qui a quand même duré, c'est difficile de dire, la fin officielle de l'intervention en Tchétchénie c'est 2009, donc ça a quand même duré 9 ans. À partir de l'invasion fin 99, presque 10 ans. Mais après ça, il y a eu l'invasion de la Géorgie en 2008, et puis surtout l'invasion de la Crimée suivie de l'intervention russe dans le Donbass en 2014. Donc ça faisait bien longtemps que le régime de Poutine était impliqué dans toutes sortes de guerres extérieures, plus dans son extérieur proche que l'extérieur lointain comme la Syrie. Mais quand même, la Syrie n'a été qu'une étape supplémentaire. Je pense d'ailleurs que ça a aussi partiellement servi à distraire l'attention de ce que les Russes faisaient dans le Donbass et en Crimée.
Dans votre texte publié aux éditions Tract, vous êtes très dur avec notamment les Russes, l'opinion publique russe. Vous fustigez leur apathie, mais justement, est-ce que ça n'est pas extrêmement difficile face à un tyran comme Poutine de se révolter, de parler librement, Jonathan Little ?
C'est difficile, mais c'est pas impossible. Il y a évidemment des gens qui se dressent contre ce régime, mais il y en a beaucoup trop peu. Et de ce qu'on sait de l'opinion publique de masse de ce pays, d'après les sondages pour ce qu'ils valent de l'Institut Levada, 77% de la population du pays soutiendrait encore Poutine malgré la guerre, ce qui est quand même assez incroyable. J'ai écouté beaucoup de conversations entre des militaires russes basés en Ukraine et leurs familles, qui ont été captés par les renseignements ukrainiens. Et c'est assez révélateur. Les familles, les femmes, les mères qui leur parlent au téléphone, les pères, les frères, n'arrivent pas à croire ce que les membres de leur famille qui sont en Ukraine leur racontent sur l'état de chaos, de délabrement de l'armée. Ils sont complètement imbibés de cette propagande qu'on leur déverse par la télé depuis des années. Par le biais, je vous signale au fait, de satellites français. Parce que ce sont des satellites français qui permettent à la propagande russe d'arriver dans les télévisions russes. Et curieusement, ça n'a pas encore été sanctionné. Mais bon. Donc oui, moi, je crois que la population russe, les Russes que je connais, disons ça autrement, sont évidemment des gens de Moscou, de Saint-Pétersbourg, d'un niveau intellectuel supérieur à celui de la majorité de la population, plus ouverts sur le monde, qui ont plus voyagé, donc ils sont pas très représentatifs. Mais je crois que quand même, en Russie, il y a un traumatisme colossal lié à toute l'expérience soviétique, qui fait que vraiment la mentalité de base des gens, c'est de faire le dos rond et de ne absolument pas lever la tête pour prêter attention à ce que fait le pouvoir. Le pouvoir s'occupe du pays et les gens s'occupent de leur vie. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Et tant que le pouvoir ne les touche pas personnellement, comme il est en train de le faire maintenant, en envoyant leur fils ou leur mari se faire tuer en Ukraine, c'est pas leur affaire.
L'une des questions qui est posée par la guerre en Ukraine, Jonathan Little, est l'un des thèmes qui traverse vos œuvres, tout ce que vous avez fait, qu'il s'agisse du documentaire que vous avez consacré aux enfants soldats en Ouganda, Les Bienveillantes, votre roman publié chez Gallimard, c'est la question de la barbarie. On la voit ressurgir de manière particulièrement crue en Ukraine du fait des exactions russes notamment. Quel regard portez-vous là-dessus ?
C'est clair que les forces russes se comportent d'une manière qu'on pourrait en effet appeler absolument barbare. J'ai moi-même documenté pas mal de leurs crimes en mai, quand j'ai écrit un reportage pour Le Monde. C'est la même barbarie que j'avais déjà vue en Tchétchénie, qui a aussi été mise en œuvre en Syrie, même si je ne l'ai pas vue personnellement, par les forces russes. C'est un niveau de cruauté à la fois individuelle et systémique, c'est-à-dire que ça vient à la fois des officiers et de l'initiative des soldats de base, qui est absolument inconcevable pour une armée occidentale. Et je dirais même pour l'armée ukrainienne. On a vu des gros dérapages du côté des Ukrainiens, il y a eu des exactions, il y a eu des prisonniers qui ont été fusillés, exécutés ou blessés après leur capture, ce qui sont des crimes de guerre et qui sont complètement illégaux, mais ce sont des cas isolés auxquels les autorités ukrainiennes affirment qu'ils donnent des conséquences judiciaires. Il faudra qu'on suive ça de près pour voir s'ils le font vraiment. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les autorités ukrainiennes font un effort pour contenir des troupes qui, parfois, excédées émotionnellement, soit par la mort de leurs camarades ou les destructions que les Russes infligent sur leur ville, commettent à leur tour des crimes. Mais chez les Russes, c'est complètement systématique. Et c'est ça que je trouve vraiment assez étonnant, finalement. C'est inscrit quelque part dans la nature même du système militaire russe. Ce qui veut dire que ça part d'une volonté, quelque part. C'est peut-être pas une volonté active, c'est peut-être juste un manque de volonté de contrôler ces dérapages. Mais ce manque de volonté devient une volonté. C'est-à-dire, quand on dit à des soldats, faites ce que vous voulez, servez-vous, ben les gens le font. On le sait très bien, dans tous les conflits, les soldats dérapent. Et c'est tout le but de la discipline militaire, de les contenir. Et quand vraiment ça dérape, de les punir. Puisque chez nous, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, des soldats sont traduits en justice et punis pour des crimes qu'ils commettent. Des meurtres ou des viols ou des choses comme ça. Les Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont exécuté des centaines de soldats américains qui commettaient des viols en France, par exemple. Chez la Russie, rien de tout ça. C'est faites ce que vous voulez, les gars. Faites ce que vous voulez. Et molodets, on vous applaudit. Et donc, ça permet un déchaînement à une échelle absolument invraisemblable, qui, je pense, n'est pas... Je pense pas, par contre, que ce soit intimement lié à la nature russe. Je pense que c'est vraiment lié à la nature humaine. C'est simplement que le système russe le permet, alors que d'autres systèmes essayent de l'interdire ou de limiter les conséquences.
À quoi ça sert, selon vous, Jonathan Little? Quel est le but de se livrer à ce genre d'exaction, en dehors du fait de redouter, ou en tout cas de s'exposer à être jugé un jour pour crime de guerre?
Je pense que les Russes s'attendaient réellement à être accueillis les bras ouverts par une population en liesse, un peu comme les scènes qu'on a vues à Kherson il y a quelques jours, quand l'armée ukrainienne est rentrée, et qu'ils ont été accueillis avec des drapeaux, des embrassades, des confettis, des bonbons et des foules en pleurs. Je pense que les Russes s'attendaient à être accueillis comme ça. Et quand ils n'ont pas été accueillis comme ça, quand ils ont été accueillis par des visages hostiles et fermés, et des résidents de villages et de villes qui, dans leur dos, donnaient des renseignements sur eux aux forces ukrainiennes, permettant des frappes assez précises sur leurs installations, sur leurs colonnes blindées, et que beaucoup d'entre eux ont commencé à se faire tuer comme ça, Ils se sont tout simplement déchaînés. Ils ont dit, le seul moyen d'arrêter ça, c'est par la terreur. Et donc, il y a quelque chose de profondément ancré dans cette mentalité de cette armée, c'est que la terreur résout des problèmes. Qu'au bout d'un moment, les gens vont se tasser, ils vont se calmer. On pourrait peut-être dire qu'ils ont raison, puisque effectivement, la terreur stalinienne, par exemple, a mis fin à toute velléité de contestation dans l'ensemble du pays. La terreur en Tchétchénie, au bout de 9 ans, a fini par complètement briser la résistance tchétchène. Mais est-ce que c'est une stratégie très payante? Et est-ce que la Russie serait capable de gérer, de contrôler un pays comme l'Ukraine uniquement par la terreur? Je ne le pense pas du tout. Mais eux semblent penser. Ils semblent penser que ça sert à ça, à faire peur et à contrôler.
Mais par ailleurs, c'est un comportement que vous avez documenté dans toute votre œuvre. On voit bien qu'il y a aussi une dimension donc quasiment anthropologique dans l'utilisation de la terreur, dans ce sadisme. Et là aussi, ça renvoie à autre chose qu'à des actes de circonstance.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que quand on laisse des soldats faire ce qu'ils veulent, surtout des soldats qui ont peur, qui ont eu des camarades tués, qui se sont fait tirer dessus ou bombarder, qui sont terrorisés, c'est les pires. Des soldats qui viennent aussi de classes sociales très défavorisées. Ce qu'il faut quand même comprendre aussi, c'est la dimension sociale dans tout ça. Les troupes que les Russes ont engagées autour de Kiev, à Boutcha et compagnie, au début de la guerre, venaient de Bouriati, du Daghestan, des régions les plus pauvres de Russie. C'est des gens sans aucune éducation. Donc ils arrivaient dans des villages riches, où les gens vivaient bien, où les toilettes étaient à l'intérieur des maisons et pas des cabanes en bois dans la rue, où les rues étaient goudronnées et pas des chemins de terre complètement défoncés comme chez eux. Et entre ce ressentiment de classe et cette haine et cette peur qu'ils avaient, ils étaient capables absolument n'importe quoi. Ensuite, c'est le hasard des choses. Tel soldat va laisser partir un prisonnier, tel autre va lui mettre une balle dans la tête. Tel soldat va gifler une femme, tel autre soldat va la violer. Ça dépend des caractères individuels. Et j'ai entendu évidemment aussi beaucoup de cas de gens qui ont survécu. Par exemple, un témoin que j'ai interviewé assez longuement dans un village qui s'appelle Motijin, qui a été torturé très longuement par des hommes de la société de mercenaires Wagner, et qui a assisté à des exécutions absolument barbares de plusieurs autres personnes par ces mercenaires. Lui a été sauvé par 3 conscrits russes qui l'ont caché, qui l'ont un peu soigné, lui ont donné à manger et lui ont permis de survivre parce que les conscrits ont fait croire au Wagner que le gars était déjà mort, qu'il l'avait enterré, et c'est comme ça qu'il a survécu. Donc évidemment, des réactions individuelles, sont même positives, sont possibles. Mais dans l'ensemble, on parle d'un système qui encourage les pires violences.
Vous qui avez écrit « Les bienveillantes », Jonathan Little, est-ce que pour vous, on a affaire à un phénomène qui finalement s'apparente au nazisme? C'est très tentant de franchir le point Godwin lorsqu'on suit les exactions de l'armée russe.
Écoutez, par principe, j'aime pas beaucoup ce genre de comparaison. Parce qu'évidemment, quand on mène des comparaisons, il y a toujours des ressemblances et des différences. Est-ce que le régime russe est un régime fasciste? Ça, oui, je le pense très fortement. Est-ce que c'est un régime ethno-fasciste? Il est en train de le devenir, en tout cas dans le discours, avec l'énorme contrainte qui gère un empire qui est fait de minorités qui ne sont pas russes. Et donc, Poutine est toujours obligé de ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire, d'un côté, promouvoir une notion ethnique de la Grande Russie sur la base de l'ethnie russe pour justifier son invasion de l'Ukraine, et de l'autre côté, ménager les 30 ou 40% de sa population qui sont mongols, musulmanes et autres minorités ethniques. Donc c'est compliqué, c'est pas du tout la même situation que celle dans laquelle l'Allemagne était dans les années 30. Après nazi, dans nazi, il y a national et socialiste. Est-ce qu'on peut considérer le régime de Poutine comme un régime réellement socialiste, à part le fait qu'il paye les pensions des gens? Je ne pense pas vraiment. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes visées de redistribution à la population de l'argent que lui et ses sbires volent au pays. En tout cas, le minimum nécessaire pour que les gens se taisent. Est-ce qu'il est lancé dans une logique génocidaire au sens de l'extermination physique du peuple ukrainien? Je ne le pense pas encore. On n'en est pas encore là. Les articles publiés, ses propres textes publiés ou ses interventions donnent des signes assez clairs de visée génocidaire culturelle, mais pas encore de génocide physique. au sens où, par exemple, les Allemands ont exterminé, voulaient exterminer l'entièreté de la nation juive. On n'en est pas encore arrivé là avec la Russie. Donc voilà, il y a des ressemblances et des différences.
Au fur et à mesure de vos publications, d'écrits que vous avez lancés, vous appelez vous-même ces écrits des écrits polémiques Jonathan Litton, est-ce que vous avez la sensation que l'opinion publique a évolué sur ces questions ?
C'est difficile pour moi de juger. Je pense que le soutien à l'Ukraine en Europe de l'Ouest est quand même extrêmement fort. Et c'est ça qui force nos dirigeants à eux aussi maintenir leur soutien économique et militaire à l'Ukraine. Il y a évidemment toute une forte composante, en France spécifiquement, à la fois de l'extrême droite et de l'extrême gauche, qui est extrêmement russophile et poutinophile. Autant du côté du Rassemblement National que de Mélenchon. Et ça, c'est assez inquiétant. La complosphère en ligne française est aussi extrêmement pro-russe. Mais c'est peut-être pas surprenant. Mais je pense que c'est quand même des phénomènes assez minoritaires. Le consensus, en tout cas social et politique, sur la nécessité du soutien à l'Ukraine, sur la nécessité aussi de se serrer la ceinture cet hiver avec tous les problèmes économiques qu'on va connaître, le prix du gaz, l'inflation, etc., reste quand même assez large au sein des populations ouest-européennes, et en encore plus forte raison en Europe de l'Ouest, à part la Hongrie évidemment. Les peuples et les gouvernements de l'Europe de l'Est sont entièrement alignés derrière l'Ukraine, et font une pression très très forte sur l'Union européenne dans son ensemble pour qu'elle reste sur cette ligne.
Dernière question, Jonathan Litton, est-ce que vous pensez que tout cela pourrait se terminer rapidement ?
Non, malheureusement non. Mais c'est difficile à prévoir, parce que toute armée a ce qu'en anglais on appelle un tipping point, un moment d'effondrement, et on manque de visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur de l'armée russe pour savoir où ils en sont par rapport à ce point d'effondrement. Il y a eu des effondrements locaux, comme à l'est de Kharkiv, où là c'était vraiment un effondrement catastrophique. Ils sont partis en laissant 90% de leur matériel. Ils ont pour eux la masse. Ils ont la logistique, les voies ferrées, les munitions. Je pense qu'ils sont incapables maintenant de reprendre une posture offensive et de faire des gains significatifs par rapport à ce qu'ils ont actuellement. Mais ils peuvent rester sur une posture défensive assez longtemps. Et l'Ukraine aurait besoin de beaucoup plus d'armes. Il y a des armes qu'on ne veut pas leur livrer, des avions dont ils ont besoin, plus de défense antiaérienne, d'autres systèmes assez lourds. Il y a aussi des armes dont tout simplement les forces occidentales elles-mêmes commencent à manquer, et surtout les réserves de munitions commencent à s'épuiser. Donc les Ukrainiens vont assez rapidement être obligés de ralentir. Et à partir de ce moment-là, le conflit peut s'enquister et redevenir, d'une certaine manière, un conflit en partie gelé, comme celui du Donbass l'était entre 2015 et 2022. Mais je suis assez confiant quand même dans les capacités offensives et surtout la détermination ukrainienne. Donc il faudrait voir, c'est très très difficile à prédire, qu'est-ce qui dominera, les considérations purement pratiques et logistiques ou vraiment cette volonté de ne pas s'arrêter jusqu'à la victoire.
Merci beaucoup, Jonathan Little. Je rappelle le titre de votre tract publié aux éditions Gallimard, de l'agression russe, écrit polémique.